Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Rémi Quirion est avec nous, il est le scientifique en chef du Québec. Monsieur Quirion, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour. Dis donc, vous êtes dans l'actualité, quelque chose de rare, mais avant de parler de tous les autres...
Un peu trop.
Ouais, c'est drôle, hein, je le sentais, là, ça devait pas faire votre affaire. Mais avant d'aborder tout ça, là, on vous avait invité la semaine dernière, aujourd'hui, pour parler de l'horloge l'Apocalypse, qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme, tu sais, à travers la planète. Et là, il y a le bulletin of the Atomic Scientist qui a dévoilé pour la 75e fois le temps qui nous reste avant la fin du monde. Puis là, on serait à 100 secondes de la fin du monde. Comment faut prendre ça, cette nouvelle-là, M. Quirion?
Ben, je pense que c'est quand même intéressant comme outil de communication. Ça nous fait une façon pour des chercheurs, il y a longtemps, avec des bombes atomiques et tout ça, ben là, il y a des dangers imminents. Et comment sensibiliser le public, comment sensibiliser nos autorités, les gouvernements, ben, ça prend, faut faire attention, là, parce que quelqu'un peut peser sur un bouton, puis tout explose. C'est certain que du côté nucléaire, c'est peut-être un peu moins dramatique que ça l'était là, dans les années 50-60. Maintenant, on est plus avec, on a vu avec ce qui s'est passé avec la pandémie. Mmh. Bien sûr, les changements climatiques, tout ce qui est arrivé aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Donc là, on disait peut-être pas nécessairement du côté du nucléaire, les grands défis et les grands dangers pour notre planète, mais c'est peut-être au niveau du climat, c'est peut-être au niveau de la cybersécurité. Si on peut penser, par exemple, demain matin, quelqu'un fait descendre tous les réseaux Internet, on aurait de la difficulté. Là. Maintenant, c'est plus par rapport à ce genre d'activité-là qu'on se dit qu'il faut faire très attention et les gouvernements devraient avoir peut-être des grandes stratégies internationales, un peu comme on a fait pour le nucléaire, tout ce qui est anti-prolifération nucléaire, avoir un peu la même chose. Là. Mm-hmm. On parle beaucoup du côté du climat. On a des grands messes, les différentes COP. Mais qu'est-ce qui arrive de très concret par la suite, c'est pas aussi évident.
Ouais, quand on lit, d'abord ça c'est quoi, c'est comme des relations publiques là de la part des scientifiques pour alerter tout le monde là, pour dire prenons certains sujets au sérieux. On dit que l'horloge de la fin du monde est restée bloquée à minuit moins 100 secondes. 100 secondes, c'est pas longtemps, ça c'est même pas deux minutes là.
Non, c'est sûr que c'est un peu c'est pour que ce soit un peu plus frappant, que ça frappe le monde, c'est sûr qu'on met le 100 secondes. C'est juste qu'avec la pandémie, avec le climat, la cybersécurité, fausses nouvelles, etc., ben là, depuis 2-3 ans, c'est une situation difficile. On avait quelques minutes de plus, il y a 4-5 ans, je pense, on était à 2-3 minutes là de ce genre de fin du monde-là, mais avec ce qu'on a vu, la pandémie, et aussi un élément de la pandémie, on a trouver des vaccins, c'est super du côté science, mais ils sont pas encore assez accessibles pour une grande partie de la population mondiale. Nous, on est relativement chanceux, mais dans plusieurs pays du monde, il n'y a pas de vaccination. Donc, tant qu'il y en aura pas au niveau global, ben, cette pandémie-là risque de faire encore plus de mal et d'avoir de nouveaux variants encore plus agressifs.
Monsieur Quirion, est-ce que deux trois affaires là-dessus là avant qu'on passe aux autres sujets là, mais quand on voit ça là, on annonce 100 secondes avant l'apocalypse, là, on comprend que c'est des scientifiques qui ont un agenda politique, pis c'est correct, mais croyez-vous que depuis genre l'an 2000, il y a une véritable culture de l'apocalypse là, on annonce la fin du monde, puis je niaise pas là, l'invasion des zombies, des morts vivants, des extraterrestres, des guerres nucléaires, des pandémies mortelles, il me semble que ça doit affecter le moral et même la vision du monde des deux, trois dernières générations?
Ben, c'est sûr qu'on voit qu'il y a du côté des jeunes, par exemple, on voit l'anxiété du côté climat, quelque chose peut-être les personnes un peu plus âgées ressentent un peu moins, mais dans des jeunes dans la vingtaine, il y en a vraiment là, qui ont cette anxiété-là par rapport à la perte de la biodiversité, des changements climatiques, ils se disent « moi, je veux pas avoir d'enfants, là ». Parce que je ne vais pas les mettre c'est sur ça. Une planète comme ça qui va peut-être exploser. Fait que ça, on le sent vraiment, comme vous dites, beaucoup plus quand même depuis 10-15 ans. Là. Puis c'est peut-être là, au niveau climatique, qui est peut-être le plus dramatique, parce que c'est moins évident. c'est moins évident au jour le jour. Oui, on voit des changements, mais aujourd'hui, il fait encore moins 25. Fait qu'on dit, ouais, ça n'a pas réchauffé tant que ça. Là.
Mais l'année 2021, M. Quérion, compte parmi les sept années les plus chaudes jamais enregistrées. Oui. C'est comme si c'est comme si ça ne nous affectait plus, ça, ces nouvelles-là.
Ça, c'est vrai aussi. Peut-être que c'est dans un sens un peu vrai aussi au niveau de nos autorités. Et ça, c'est peut-être un défi qu'on a du côté des chercheurs. Là. Comment rendre ça beaucoup plus concret, les changements climatiques? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma ruelle à Montréal ou dans ma rue ou ma famille? Ça, on a eu encore de la difficulté à bien l'exprimer. La pandémie, c'était beaucoup plus évident. Tu vois tes grands-parents qui meurent ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus les hôpitaux qui se remplissent. Changement climatique, tu dis oui, on sait. Mais bon, si on attend 2-3 semaines de plus, ça change pas grand-chose. 2-3 ans de plus, c'est là qu'il le drame un peu là
de pelleter par en avant.
Oui, parce qu'il y a aussi, on est à court terme avec des élections, 4-5 ans, des choses comme ça. Fait qu'on pense pas autant long terme.
Changement de sujet, Rémi Quérion, la proposition de Dominique Andelade, la chef du Parti libéral, parce qu'elle vous nomme indirectement, là, de vous mettre à la tête d'un comité scientifique indépendant pour prévoir la sortie de pandémie, puisque vous êtes interprète d'un comité scientifique indépendant pour prévoir la sortie de pandémie, puisque vous êtes interpellé, moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition-là?
Ben moi, je travaille pour le gouvernement du Québec, là. Donc, si le gouvernement du Québec pense que c'est une bonne idée, moi, je suis prêt à servir, là. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'arriver autour d'une table qui serait peut-être un peu plus large en termes d'expertise. On a focusé beaucoup sur des experts du côté santé physique, et c'est bien normal avec le virus, trouver des vaccins, etc. Mais on est rendu peut-être beaucoup plus, si on parle de la santé mentale de société, la cohésion de notre société, dont on va avoir des experts aussi en sciences sociales, en sciences humaines. On les a peut-être pas assez entendus depuis le début de la pandémie. Donc, avoir un groupe de travail assez indépendant qui fait des recommandations par la suite, c'est pas le groupe de travail qui décide, là, ce sont des élus, c'est leur travail.
Ouais.
Mais au moins avoir un processus assez ouvert où les recommandations sont publiques.
À la table, est-ce que vous pourriez inclure aussi quelqu'un de l'économie? Parce que mine de rien, payer son loyer, c'est un peu important aussi.
Oui, non, c'est sûr que tout l'aspect là d'impact socio-économique très 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 important.
Ouais, mais personne ne vous a contacté là, Madame Andelade, quelqu'un de l'équipe du Parti libéral ne vous a pas contacté avant de proposer ça.
Non, ben c'est sûr, moi je connais assez bien Dominique Andelade, ça a été ma patronne pendant quelques années lorsqu'elle était ministre là, de l'économie et de l'innovation, donc pendant 2 ans, 1 an et demie, c'était ma patronne directement, je me reportais à elle, fait qu'elle me connaît assez bien aussi.
Mais là, avec le BA1, puis le l'Omicron, puis le Delta, puis les surprises qui se sont succédées, M. Quérion, est-ce qu'on peut vraiment prévoir une sortie de pandémie?
Je pense que oui, en étant un peu optimiste, là, mais un des éléments essentiels, là, c'est vraiment là, d'être capable d'offrir la vaccination, et peut-être les autres médicaments, les autres approches thérapeutiques qui s'en viennent à tout le monde, partout dans le monde. Parce que sinon, on va juste générer, on va continuer à avoir de plus en plus de variants, certains qui sont assez inoffensifs, d'autres qui risquent peut-être d'être beaucoup plus agressifs. Là. Donc, de travailler globalement là pour s'assurer d'être capable de vacciner la majorité de la planète. Sinon, on va être rendu à la dose numéro
72. Mais un comité scientifique indépendant, par-dessus les NSPQ, par-dessus l'Agence de santé du Canada, par-dessus... Vous avez pas peur de vous marcher sur les pieds, là, à un moment donné?
C'est un bon point. C'est sûr que l'expertise de l'NSPQ, l'expertise du laboratoire de santé publique, c'est assez, je dirais, un peu pointu. Il n'y a pas beaucoup, là, je dirais, d'impact plus du sociétaux là-dedans. Ils regardent pas beaucoup ces aspects-là, puis c'est correct, là. C'est pas dans leur mandat de faire ça. Fait que je pense d'avoir un comité très, très multidisciplinaire où on va chercher des expertises d'un peu tous et chacun. Mmh. On pourra en bénéficier et en rendant ces avis-là publics.
Rémi Quérion, vous avez donné une entrevue au Soleil, là. Vous parlez d'élargir l'accès aux masques N95. Alors d'abord, pourquoi ça ne se fait pas et à qui ça pourrait profiter en premier?
Je pense que pourquoi ça se fait pas, et c'est peut-être au point de départ au début de la pandémie, puis c'est encore une réalité aujourd'hui, là. Souvent, c'est l'accès, ça, c'est d'être capable, même si on veut en acheter, parce que c'est des produits qui sont excessivement en demande partout dans le monde. Donc, on devait dire, pas vraiment pour vous. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire la priorité au personnel de la santé, des médecins, des infirmières, tous les gens qui gravitent avec les malades, d'avoir accès au N95, c'est absolument essentiel.
Les enseignants?
Par la suite, oui, certainement les enseignants du côté éducation et du côté plus, si on veut, du grand public, ben aussi peut-être là être mieux protégés. Si on fait un vol, par exemple, Montréal-Vancouver, ou lorsqu'on va pouvoir sortir un peu plus du pays à l'extérieur,
ouais.
On est dans un contexte relativement fermé, l'ouverture des grands concerts, le Centre Bell, des histoires comme ça. Donc ça protège mieux quand même que les masques plus habituels qu'on a, les petits masques bleus et les autres.
Pour combien de temps encore, là, pensez-vous, là, parce qu'on n'est pas sorti de la pandémie, M. Quirion, hein? On ne faut pas se raconter des histoires?
Non, je pense que c'est... Peut-être que pour certains d'entre nous, d'utiliser des masques, ça va devenir un peu intégré dans notre façon de faire. On peut, comme on voit dans plusieurs pays d'Asie, là. Si on va au Japon, par exemple, on voit ça très fréquemment en Corée du Sud aussi, là où les gens portaient des masques, là, même avant ces pandémies-là, ça a quand même des effets positifs. La grippe, comme par exemple juste l'influenza aussi, il y en a moins, les incidences sont diminuées. Donc, pour certains d'entre nous, probablement qu'on va garder cette habitude-là. Mmh. Et ça va sembler moins étrange pour les autres qui n'en portent pas. C'est sûr que quand on voyait ces gens-là, on allait dans ces pays-là, on les voyait masqués, on disait ça faisait un peu extraterrestre. Là. Je pense qu'on se rend compte que c'est très important aussi de se protéger de cette façon-là.
Ouais. Diriez-vous, M. Quirion, que les scientifiques, la science pourrait faire une meilleure job pour expliquer ses décisions, ses constatations. Tu sais, puis on a l'impression que notre inculture scientifique nous rattrape là, en temps de pandémie. On comprend pas vraiment les vaccins, les virus, les mesures sanitaires. Il y a pas une meilleure job à faire là?
Oui, je pense. Et nous, pour les chercheurs, les scientifiques, pour les journalistes scientifiques, médias, etc. Puis je dis souvent, là, mieux expliquer la méthode scientifique, comment on bâtit l'argumentaire de la science, c'est pas nécessairement la nouvelle du jour. Là. C'est ça qui peut-être là où il y a eu certaines erreurs, où on a mis en première page, comme chercheur, on a dit « Ah, ben là, ça serait fabuleux », et finalement... On pense que c'est fabuleux, puis deux semaines plus tard, bon, finalement, ça n'était pas tant que ça. Fait qu'expliquer plus la méthode scientifique qui se construit dans le temps.
Ouais.
Et malheureusement, il y a des allers-retours. Et puis surtout ici, avec ce virus-là, on ne le connaissait pas du tout. Là.
Mm-hmm.
On a encore des surprises. Peut-être qu'il y en a encore des surprises qu'il nous réserve, ce fameux virus.
On est tanné des surprises, vous trouvez pas?
Oh, oui, ça c'est vrai. Moi aussi. On est un peu tous tannés de ça. Là, on a hâte de reprendre une vie... entre guillemets, plus normal.
Dites-moi donc comment vous avez réagi quand vous avez vu cette nouvelle, là, ce fait divers là, d'influenceurs sur le vol d'avion, tu sais, en toute impunité, là, être sur le party, puis alors qu'on resserrait les mesures sanitaires. Comment vous, comme le scientifique en chef du Québec, comment vous avez réagi?
Ben, on est, je dirais, insulté, surpris.
Dites-moi la vérité, là. La vérité, là. Avez-vous dit des gros mots dans votre salon?
Oui. Puis je l'ai dit à d'autres personnes aussi, pas juste moi.
Ah oui, hein?
Mais aussi, on se dit, ben peut-être, et vous l'avez mentionné un peu avant, il y a peut-être nous aussi amélioré notre façon de faire en termes de communication scientifique. Est-ce qu'on aurait convaincu ces gens-là? Peut-être pas. Mais pour l'aspect grand public, peut-être qu'on a du travail à faire de ce côté-là. Mais c'est sûr que c'est très frustrant, là. Quand toi, tu es pris dans ta maison, pas de party pendant le temps des fêtes, puis il y en a d'autres qui font un gros party dans l'avion. Là,
on devrait pas les recruter pour faire passer le message, justement, là, des influenceurs. Ça s'achète, ça. C'est pas compliqué, là. ils demandent juste des commanditaires, faire de l'argent, puis voir leur face un peu partout sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'on devrait les prendre à leur propre jeu, puis les utiliser pour faire la promotion de la vaccination.
Ah, c'est peut-être une idée intéressante. J'aurais pas pensé nécessairement à celle-là. Là.
Mmh. Bon.
On va y réfléchir un peu plus.
Là, pour revenir là-dessus, l'horloge de l'apocalypse, là, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, mais il faut pas paniquer?
Non, il faut pas paniquer.
Les masques N95, il y a eu des erreurs là, dans la santé publique, dans le message, là, pour inciter les gens à porter d'abord le masque, mais en plus le masque N95.
Oui, ça depuis le début, c'est sûr, puis c'est pas unique au Québec, c'est arrivé aussi dans d'autres endroits dans le monde là où on a eu des allers-retours, mais je pense que maintenant, ils sont quand même beaucoup plus accessibles, beaucoup plus disponibles, on devrait les rendre accessibles à tous, quitte à ce que ça se vende en pharmacie, comme ça se fait dans certains pays.
Là. Y a-t-il un problème d'égo chez les politiciens, les scientifiques, à être capables d'admettre leurs erreurs?
Ben, je pense que peut-être du côté plus... peut-être mettre le blâme sur les scientifiques plus, là. Ben, du côté des politiciens, je dois dire que j'aimerais pas être dans leur soulier. Depuis 2 ans, là, on voit ils sont épuisés. On voit les gens sont épuisés. Et on est plus tous à fleur de peau, là. Donc, ben, jour après jour, d'être sur cette pression-là, c'est pas simple, là. Je dois dire que c'est vraiment très, très difficile pour eux. C'est sûr qu'ils ont. Et aussi, peut-être qu'on a eu des erreurs de ce côté-là, de nous aussi, là, d'expliquer. On parlait du grand public, mais pour les élus, c'est un peu la même chose aussi. La méthode scientifique, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas vraiment. Là. Fait que d'arriver et de dire aujourd'hui, on dit bleu, puis 2 semaines plus tard, c'est rouge.
Ouais.
Il y a un peu de difficulté à comprendre ça.
OK, je vous laisse après, M. Quirion, là, mais la dernière question qui me vient en tête, vous, comme scientifique en chef du Québec, vous n'êtes pas en position de dire, là, demain ou après-midi, on commande des N95, on en met pour le personnel de la santé et dans les écoles pour les profs, puis je veux que ça se fasse drette là, puis faites-moi pas suer avec l'argumentaire, puis je veux rien entendre là, maintenant, tout de suite.
Non, ça, c'est plus le rôle des élus, je dois dire. Fait que moi, je fais des suggestions, des recommandations. Un peu, je dirais même, comme la santé publique, c'est un peu ça aussi, là. Et par la suite, c'est vraiment aux élus. Dans une démocratie, c'est le politique.
Mais si vous en pétez une dans le bureau de François Legault?
Non, on n'est pas rendu là.
Ça s'en vient-tu?
J'espère que non.
Ça vous tente-tu?
Des fois, oui. Mais...
J'imagine. Écoutez, là, je sais pas, parce que j'ai l'impression que vous avez un rôle à jouer là, dans tout ça, là, de réaligner les politiques au Québec, puis faire du mieux qu'on peut. Puis effectivement, c'est une pandémie, là, et puis il y a toujours des surprises à venir.
Oui, sûrement.
Bon, mais parfait. Alors, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Quirion. À la prochaine.
Merci bien. À la prochaine. Salut.